Alors, il y a quelques semaines, début janvier, j'avais prêché sur l'importance de la Bible, la parole de Dieu pour notre vie, l'importance de la lire, l'importance de s'en nourrir, de la méditer jour après jour, parce que c'est dans la Bible que Dieu a décidé de se révéler à nous, tout simplement. C'est dans ses pages que nous pouvons apprendre à le connaître, c'est dans ces pages que nous pouvons trouver des réponses aux questions les plus importantes de notre vie. Et surtout, Dieu veut utiliser la Bible dans notre cœur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui va venir nous aider à comprendre pour pouvoir changer ensuite dans notre vie. Alors bien sûr, il ne nous fait pas tout comprendre d'un coup, hein. Il le fait en son temps, avec le rythme qui nous convient le mieux. Parfois, on lit un passage et... non, on ne comprend rien. Ou pas grand-chose, ça ne nous parle pas. Mais quelques années après, peut-être, on retombe dessus, ou quelqu'un nous en parle, et là, ting, quoi, ça fait sens, ça prend tout son sens. Dieu ne nous fait pas tout comprendre d'un coup, il le fait en son temps, avec le rythme qui nous convient le mieux, et que lui connaît mieux que nous. Lire la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux pour notre vie. Pouvoir s'engager envers Dieu, à le faire chaque jour, à lire sa parole chaque jour pour être nourri par Dieu. Chaque jour, c'est un acte, un engagement merveilleux. Et un engagement fort, c'est bien, mais avoir la volonté, ça ne suffit pas toujours. Parce que beaucoup de choses peuvent venir nous détourner de notre engagement. Et personnellement, pour moi, je vais parler pour moi parce que j'imagine que je ne suis pas le seul, mais je vais parler pour moi-même. Personnellement, au quotidien, c'est pas si facile que ça pour moi de me tenir à cet engagement qui est pourtant ultra important pour moi et qui semble finalement plutôt simple. Je veux dire, prendre 15 à 30 minutes par jour pour quelque chose de vital pour nous, ça semble pas infaisable. Presque tous les jours, je vous le dis, je prends à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure pour une partie de jeu vidéo. Et ça, c'est pas vital du tout. Et pourtant, j'ai pas du tout du mal à m'y tenir. Vous, ça sera peut-être autre chose, mais prendre 15 à 30 minutes par jour pour quelque chose de vital pour nous, ça semble pas infaisable. Et pourtant, personnellement, j'ai du mal. Et je pense que je suis pas le seul. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont du mal également à pouvoir ouvrir leur Bible chaque jour? Merci de votre honnêteté. On a du mal, parce que pour beaucoup de raisons. Beaucoup de choses peuvent nous détourner de cet engagement. Ça peut être les occupations du quotidien, ça peut être l'apparente sécurité de notre routine qui petit à petit nous détourne, ça peut être le travail, la famille, les études, tout un tas de raisons qui sont bonnes, ces choses ne sont pas mauvaises. Ça peut être aussi des choses plus pénibles, les préoccupations, les soucis, peut-être même les épreuves, les craintes, les angoisses. Alors, la volonté de garder notre vie centrée sur Dieu et sur sa parole, ça ne suffit pas. Alors, que faire? Il y a une histoire dans l'évangile de Matthieu qui, je le pense, peut nous éclairer sur cette question. Une histoire qui nous parle des difficultés que nous pouvons avoir à garder les yeux fixés sur le Christ et sur lui seul. C'est une histoire qui se passe durant la vie de Jésus et que l'on trouve en Matthieu chapitre 14. Mais tout d'abord, on va dresser un petit peu le contexte. Jésus, dans ce passage, vient de perdre son cousin, Jean-Baptiste, celui qui avait pour mission de préparer le peuple à la venue du Sauveur. La nouvelle parvient jusqu'à Jésus qui est bouleversé par la mort de son cousin, de Jean-Baptiste. Et Matthieu chapitre 14, verset 13 nous dit ceci. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira dans un endroit désert. Jésus est bouleversé. Alors il se retire loin de tout pour vivre un temps de deuil, son deuil. Mais des foules entières le suivent pour continuer à recevoir son enseignement, son message, la guérison également. Et le verset 14 nous dit, quand Jésus descendit de la barque, il voulait se rendre dans un endroit désert, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Pris de compassion pour cette foule, pour tous ces gens, Jésus renonce pour un temps à son deuil. Il prend soin d'eux, Il les guérit, il les enseigne, il va même les nourrir, parce que c'est là où a lieu ce fameux miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais Jésus n'a fait que repousser son deuil. Il a maintenant besoin de se retrouver seul, complètement seul. Et nous lisons au verset 22 et 23, « Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. » Jésus est enfin seul et il peut y vivre ce qu'il a besoin de vivre, avec Dieu. Tout seul avec Dieu. Mais pendant ce temps-là, en fait, il n'est pas le seul à être seul. Ses disciples aussi, maintenant, sont seuls. Seuls, enfin, ils sont plusieurs, mais ils sont seuls sans lui. Hein ? Ils sont seuls dans une barque, seuls en pleine nuit, au milieu du lac de Galilée. Et là, ça se gâte. Le vent se lève, un vent contraire qui soulève des vagues, qui gêne la progression de la barque, et toute la nuit, les disciples luttent contre le vent et les vagues pour faire ce que Jésus leur a demandé, hein, c'est-à-dire traverser le lac. C'est ce que Jésus leur a demandé. Hein, vous voyez, des fois, lorsqu'on dit qu'on veut faire la volonté de Dieu, mais qu'on a l'impression que tout cherche à nous en empêcher, des fois, ce n'est pas qu'une image, hein, ça peut être extrêmement concret. Les disciples luttent toute la nuit, ils fatiguent, mais le Seigneur ne va pas les laisser seuls, les abandonner. Et nous lisons au verset 24, « Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. » Alors bien sûr, voir une forme humaine qui marche sur l'eau, ce n'est pas banal et leur réaction va être très compréhensible. Ils ont peur. Nous lisons verset 26, « Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme, dirent-ils. » Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt, « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et après cette longue mise en situation, que je pense quand même nécessaire, eh bien nous arrivons au passage qui va nous intéresser, pour chercher à comprendre quoi faire lorsque nous avons du mal à garder notre vie fixée sur Dieu, sur Jésus et sur sa parole. Et nous lisons le texte de la prédication d'aujourd'hui, les versets 28 à 32. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Et quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main, le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Je sais, la plupart d'entre nous connaissent peut-être ce passage, mais nous allons nous poser quand même quelques questions à son sujet. Quatre questions pour être exact. Première question. Pourquoi Pierre demande-t-il à Jésus de le faire marcher sur l'eau ? Est-ce que c'est pour avoir une preuve que c'est bien lui ? Il risquerait sa vie pour être sûr que ce n'est pas un fantôme ? Du style, je me jette du haut d'un immeuble en se disant « Seigneur, si tu existes, fais-moi atterrir en douceur ». J'en suis pas sûr. Il aurait simplement pu attendre que Jésus les rejoigne, il aurait été fixé. Non. Je pense qu'il est déjà persuadé que c'est bel et bien Jésus. Il le voit, il l'entend, il lui demande « Si c'est bien toi, dis-moi de venir. » Et Jésus lui dit « Viens ». Il est sûr que c'est Jésus. Il est déjà sûr. Et c'est justement pour ça que Pierre demande à pouvoir marcher sur l'eau. Il sait que c'est Jésus et il désire simplement être auprès de lui, le rejoindre. Il sait qu'il y sera plus en sécurité que dans la barque ballottée par les vagues. Il demande alors, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. C'est là que se trouvera sa sécurité et sa vie, pas dans la barque, mais auprès du Christ. Pierre veut dédier sa vie à suivre le Seigneur, à être auprès de lui, à le servir, à faire sa volonté, à lui obéir. Ordonne-moi de venir te rejoindre, C'est pas un test. C'est l'expression pour moi du désir le plus profond de son cœur. Il veut être auprès du Christ. Mais il a besoin que Jésus lui montre le chemin. Ordonne-moi de te rejoindre et j'obéirai. Il sait que c'est auprès de Jésus qu'il trouvera la sécurité, la paix, le salut et la vie, même lorsque sa vie est bousculée par les éléments qui l'entourent. C'est un peu comme nous, hein, dans nos vies mouvementées, parfois même tourmentées. Si nous voulons prendre un engagement de lire quotidiennement la parole de Dieu, c'est bien parce que nous avons conscience que c'est uniquement auprès du Seigneur et de sa volonté que nous trouverons la paix, le salut et la vie. C'est pas pour obéir au pasteur ou à une religion, c'est bien parce que nous savons que c'est auprès de Dieu et de sa parole que nous trouverons la paix, le salut et la vie. C'est parce que nous avons foi en Dieu que nous désirons le rejoindre et être auprès de lui, constamment, malgré les tempêtes qui nous entourent. Et pour être chaque jour plus proche de Dieu, pour que chaque jour notre relation à lui grandisse, pour chaque jour mieux le connaître, eh bien nous voulons découvrir ce qu'il nous dit dans sa parole, quotidiennement. Si nous croyons en Jésus, eh bien c'est pour être en relation avec lui que nous voulons chaque jour lire sa parole, tout simplement. Pierre a foi en Jésus, et c'est pour être auprès de lui qu'il demande à pouvoir marcher sur l'eau, pour le rejoindre. Mais deuxième question, qu'est-ce qui fait que Pierre arrive effectivement à marcher sur l'eau? J'ai parfois entendu dire, et c'est vrai qu'à la lecture de ce texte, on serait tenté de répondre que c'est sa foi qui lui permet de marcher sur l'eau. Mais si c'était le cas, tous les chrétiens sauraient marcher sur l'eau. Ne faites pas ça chez vous. Si c'est la foi qui permet à Pierre de marcher sur l'eau, ça voudrait dire que la volonté humaine suffit à réaliser des miracles. Si j'y crois assez fort, tout sera possible. Si ça n'a pas marché, c'est que je n'ai pas cru assez. Ma foi n'était pas assez grande, donc ça n'a pas marché. Non. Jésus dit bien à Pierre que sa foi était petite à la fin de ce passage. La foi de Pierre en Jésus ne le fait pas marcher sur l'eau. La foi qu'il a en Jésus fait qu'il obéit à l'ordre du Christ. « Viens !» lui ordonne Jésus, alors il y va. Sa foi le met en mouvement vers Jésus. Mais ce n'est pas sa foi qui le fait marcher sur l'eau. C'est le Christ, c'est Jésus, c'est Dieu qui réalise le miracle, qui permet que Pierre puisse le rejoindre. Et ça, c'est primordial à comprendre. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous voulons nous tourner vers Dieu, lorsque nous désirons vivre notre vie avec lui, lorsque nous voulons prendre un engagement à lire sa parole, à lui obéir, à changer de vie, lorsque nous désirons être auprès de lui, vivre sa paix, son pardon et son salut, notre foi va nous faire tourner les yeux vers le Seigneur. Mais ce n'est pas notre foi qui va nous permettre de le rejoindre. C'est Dieu et uniquement lui qui nous permet par amour de venir auprès de lui. Et heureusement pour nous, parce que ma volonté et ma foi ne sont pas plus grandes que celles de Pierre. Elles sont bien faillibles. Parfois elles faiblissent. Parfois des choses me détournent de mes engagements, de mon obéissance à Dieu, de ma marche vers lui. Et c'est exactement ce qui se passe pour Pierre au verset 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Sa foi et sa volonté qui étaient dirigées vers le Christ sont facilement détournées du Seigneur par ce qui se passe autour de lui. Et Pierre se met alors à s'enfoncer dans l'eau. Et la troisième question, qu'est-ce qui fait que maintenant Pierre ne peut plus marcher sur l'eau? Qu'est-ce qui fait qu'il s'enfonce dans l'eau? À nouveau, en lisant ce texte, on pourrait être tenté de répondre que c'est son manque de foi qui le fait s'enfoncer. Et je pense que nous serions encore dans l'erreur, parce que tout comme c'est Dieu qui faisait marcher Pierre sur l'eau, c'est à nouveau Dieu qui le fait s'enfoncer. Et j'en veux pour preuve que Pierre ne se met pas à couler d'un coup. Il s'enfonce lentement dans l'eau. Ça reste toujours miraculeux. Normalement, on ne s'enfonce pas dans l'eau progressivement, on tombe dedans. Mais ici, tout comme Dieu a fait marcher Pierre sur l'eau, il le fait s'enfoncer, s'enliser, progressivement. Et là, forcément, quatrième question, ça sera la dernière, pourquoi ? Pourquoi Dieu fait-il lentement couler Pierre? La réponse se trouve dans la réaction que cela produit chez le disciple. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Pierre a foi en Jésus. Pierre désire fixer sa vie sur son Seigneur. Mais ce monde, nos vies, nos faiblesses, tout ça peut nous détourner de Dieu, nous détourner de sa paix, de sa volonté, de la lecture de sa parole. Et parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Ça peut nous arriver de ne pas lire la Bible pendant une semaine, deux semaines, un mois, et de s'en rendre compte après. Mince, ça fait combien de fois que je n'ai pas ouvert ma Bible ? Ça peut nous arriver de prendre une direction de vie que Dieu désapprouve sans nous en apercevoir. Ça arrive à chacun et chacune d'entre nous, moi y compris, de nous fixer et de nous focaliser sur d'autres buts que ceux du Seigneur sans nous en rendre compte. Et lorsque nous commençons à nous égarer, eh bien, par amour pour nous, Dieu vient alors à nouveau attirer notre attention vers lui. Il a plein de moyens pour le faire. Ce n'est ni un abandon, ni une punition. Il n'a pas abandonné Pierre, sinon celui-ci aurait tout simplement coulé, comme une pierre, elle était facile. Mais Pierre commençait à sombrer dans la peur de ce qui l'entourait intérieurement, en lui-même. Il n'était plus orienté vers son Seigneur. Il était en train de se couper de la paix du Seigneur sans s'en rendre compte. Il détournait son regard de Jésus. Alors le Christ lui fait réaliser qu'il est en train de sombrer intérieurement dans la peur, en le faisant sombrer physiquement, lentement. Il lui fait prendre conscience par les circonstances que seul il ne s'en sortira pas, que ce n'est pas sa foi qui le maintenait à flot, mais que c'était Dieu et Dieu seul. Pierre en prend conscience. Alors il se tourne à nouveau vers celui qui peut seul lui apporter cette paix et ce salut qu'il recherche. Au secours, Seigneur ! Pierre était enfermé par ses craintes et par ses doutes. Ça l'empêchait de continuer à regarder vers Jésus. Et il n'arrivait pas à sortir de cet état-là tout seul. Alors Dieu le fait s'enfoncer pour lui faire prendre conscience que s'il ne sombre pas complètement, c'est bien que Dieu le protège, qu'il ne l'abandonne pas, et donc il peut se tourner vers lui pour appeler à l'aide. Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Immédiatement, il vient à son secours. Et avec le secours du Seigneur vient également cette leçon d'humilité que Pierre avait sûrement besoin de recevoir à nouveau, comme nous, ce matin. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Je ne vois pas ça comme un reproche, simplement comme un constat à accepter. Notre foi est bien faible. Si nous pensons tenir par notre foi et elle seule, nous n'irons pas bien loin. Notre foi en Dieu peut grandir. Notre foi en Dieu peut devenir de plus en plus solide. Notre volonté de le suivre, de lui obéir et de fixer notre vie sur lui peut être très forte. Et nous avons peut-être également mis en place de bonnes habitudes, de discipline personnelle, de pratiques spirituelles quotidiennes pour être sûr de garder les yeux tournés vers le Christ. Mais ne nous faisons pas d'illusions. La volonté humaine n'a jamais amené personne au Seigneur. Jamais. Nous n'amènerons personne au Seigneur. Et nous n'irons pas nous-mêmes, par notre volonté, au Seigneur. Il n'y a que Dieu qui soit capable de nous amener à lui et de nous ordonner, comme à Pierre, « Viens !» À l'intérieur de nos efforts qui sont utiles, qui sont bons, hein, en gardant aussi la pratique de l'obéissance à Dieu qui est centrale pour notre vie, en persévérant chaque jour dans la lecture de sa parole de Dieu, ce qui est vital pour nous, tout ça c'est bon, gardons-le. Mais il nous faut garder l'humilité. L'humilité qui nous fait dire, Seigneur, sans toi, tout ça ne sert à rien. Sans toi, tout ça ne mène nulle part. Sans toi, tout ça ne durera pas. Sans toi, je vais vite m'en détourner. Dans nos bonnes habitudes de vie, continuons à rechercher le Seigneur, son pardon, son amour et sa paix. Continuons quotidiennement, c'est vrai, à enrichir notre relation à lui dans la prière, dans la lecture de sa parole. Continuons à apprendre la persévérance, l'obéissance, la fidélité, oui, mais restons humbles. Alors demandons constamment à Dieu son aide. Au secours, Seigneur, même quand nous avons l'impression que tout va bien. Car il n'y a que lui qui puisse rendre ces choses possibles. Il n'y a que lui qui puisse concrétiser miraculeusement le fruit de notre foi, de notre volonté et de nos efforts. Il n'y a que lui qui puisse garder nos yeux fixés sur lui. Dieu veut attirer constamment nos yeux vers lui. Et il utilise notamment, quotidiennement, très souvent, deux manières différentes de le faire. C'est peut-être pas les seules, mais ces deux-là sont très importantes. Il le fait directement dans notre cœur, par son Saint-Esprit. Il nous appelle à lui, il nous attire à lui, il nous amène à regarder vers lui. Mais il veut le faire aussi au travers des encouragements que nous pouvons nous apporter les uns aux autres. Ceci aussi est un fruit de l'Esprit de Dieu, de pouvoir nous encourager. Au sein de la famille de Dieu, les croyants doivent s'encourager chaque jour que Dieu fait. Ils doivent s'encourager à persévérer dans leur foi, à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, à persévérer dans la prière les uns pour les autres, à persévérer dans l'amour les uns envers les autres. Les croyants doivent s'encourager. Et je pense qu'il n'y a pas un jour où nous n'avons pas besoin d'encouragement. C'est chaque jour que nous en avons besoin. Mais comment faire ? On ne va pas se réunir tous les soirs ici dans nos locaux, ça paraît compliqué. Alors, comme je l'avais annoncé début janvier, mais sans donner de précision à l'époque, j'avais laissé une grande frustration ce dimanche-là, nous allons proposer à ceux et celles qui le souhaitent de pouvoir participer à encourager et à être encouragés mutuellement au quotidien. Encouragés dans notre foi, dans notre lecture de la parole, dans notre relation à Dieu et la prière. Et ça se fera d'une manière qui soit la plus simple, la plus naturelle, la plus paisible et la moins chronophage possible. J'espère que j'ai déjà réussi à vous rassurer. Nous allons proposer à ceux et celles qui le souhaitent de former simplement des binômes d'encouragement et de prière. C'est-à-dire deux personnes qui s'engagent l'une envers l'autre à prier pour l'autre et à une parole d'encouragement. Et ce, autant que possible au quotidien. Pas besoin de se voir pour ça, un SMS d'encouragement, un petit mot sur WhatsApp, un mail ou un coup de fil, ou si on se voit une petite parole, ça suffit. Une parole qui assure de notre encouragement et de notre prière pour la personne spirituelle. Dans tous les cas, souvenez-vous du texte que nous avons étudié aujourd'hui. Si vous désirez marcher avec Dieu, les yeux et le cœur fixés sur lui, même dans les tempêtes de votre vie, ça ne sert à rien de vouloir marcher par vous-même ou de vouloir marcher même simplement avec les encouragements des autres. Non, tout comme Pierre, tournons-nous vers Dieu pour lui exprimer le désir profond de notre cœur. Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre. Et le Christ vous tendra la main en vous donnant cet ordre tout simple. Viens. Et si le découragement survient, sachons nous tourner alors vers Dieu tout à nouveau, comme Pierre, pour l'appeler à l'aide. Au secours, Seigneur, n'ayons pas peur d'être jugés par lui, de nous être détournés. Appelons-le à l'aide, et comme Pierre, immédiatement, il nous tendra la main pour nous ramener à lui. Parce que notre volonté seule, ou nos encouragements mutuels seuls, ne nous mèneront jamais bien loin. Ils sont primordiaux, importants. Mais nous avons avant tout besoin de l'œuvre d'encouragement de Dieu en nous par son Esprit, et également de ce que le Saint-Esprit veut produire comme encouragement mutuel entre nous, les uns envers les autres. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège sur notre chemin de vie. Et j'aimerais vous inviter, pour terminer cette prédication, comme réponse à cette prédication, à chanter tous ensemble que c'est bien le Christ et lui seul qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie.